Entame ton après-midi en douceur avec un grain d'inspiration et un nuage de singularité. Au Café des Métiers, tu découvriras la face cachée de certaines professions, tu envisageras une nouvelle vocation ou tu te reconnaîtras dans le partage de l'invité du jour. Motivation, difficulté, doute, espoir et passion. Installe-toi et laisse-toi embarquer par le Café des Métiers, tout de suite, sur Prune. You may have the money, but you've got to go. It's sensible, it's sensible. And those endless seasons that go on and on, incredible. But I'd sooner get out.
À toutes et à tous et bienvenue au Café des Métiers. Moi c'est Charlotte et tous les mercredis on se retrouve pour découvrir les coulisses professionnelles de l'invité du jour. Aujourd'hui nous allons embarquer à bord d'un métier dont les turbulences font partie du quotidien. Nous avons le plaisir d'accueillir au Café des Métiers Yann Saillet, pilote de jet privé. Il a suivi sa passion et s'est dirigé vers une école de pilotage. Yann est pilote depuis 5 ans et souhaite aujourd'hui déconstruire certaines idées reçues sur l'univers de l'aéronautique. Entre pilotage, résilience, responsabilité et passion, nous allons tenter de survoler le quotidien atypique d'un pilote d'avion. Bonjour Yann.
Bonjour.
Bienvenue au Café des Métiers.
Merci.
Et merci de venir nous partager ton expérience au micro de Prune.
Avec plaisir.
On va commencer par le début de ta carrière. Qu'est-ce qui t'a amené à te lancer dans ces études de pilotage ?
Une passion, comme beaucoup de pilotes en fait. C'est vraiment une passion de gamin. On est des enfants. J'ai pris l'avion quand j'étais assez jeune et en fait j'ai été subjugué. Et très vite, je me souviens encore à l'aéroport de Genève où j'étais face à la piste en train de regarder les avions. Et il y en a un énorme qui passe et qui recouvre. Alors dans mon imaginaire, dans mon souvenir, il recouvrait l'aéroport tout entier. L'ombre recouvrait l'aéroport tout entier. Enfin, c'était gigantesque. Et de me dire qu'il y a des gens qui sont juste aux commandes de cette espèce de gros engin bizarre, magique, qui vole dans le ciel et qui sera à des milliers de kilomètres dans quelques heures. Ça m'a rendu fou.
Et pour pouvoir mettre en action cette passion, par quelles études tu es passé ?
Eh ben, du coup, je me suis renseigné. Donc, faut être bon en maths, en physique et en anglais. Donc, maths, physique, anglais à fond. Si bien que mon bac peut le dire, parce que 10, aux alentours de 10, et par contre, 18 dans les matières qui m'intéressaient. Et tout le reste, voilà.
Et tu es aujourd'hui donc pilote de jet privé. Quelle est la différence avec un pilote d'avion entre guillemets plus classique ?
Aucune.
Aucune.
C'est juste vraiment l'endroit où on fait notre métier. C'est la différence entre un cuisinier de grand restaurant et un cuisinier un peu plus classique. Bah voilà, c'est juste pas le même cadre. Après, il y a des différences tout de même puisque pour les pilotes de ligne. Du coup, il y a beaucoup de travail qui est mâché, alors que dans l'aviation privée, on va dire qu'on est un peu plus tout seul, on doit un peu plus se débrouiller tout seul.
Parce que les équipes sont plus grandes ?
Oui, parce que les équipes sont plus grandes, il y a plus de choses, notamment, par exemple, moi, j'ai pas d'hôtesse de l'air, par exemple. Donc, du coup, qui va faire le service aux passagers ? C'est moi.
D'accord.
Ou mon collègue.
Okay. Voilà. Et donc, c'est faisable à gérer pendant un vol ?
Bien sûr. Ouais. En fait, c'est-à-dire que déjà, il n'y a pas de porte au cockpit. Donc, clairement, on est très, très proche des passagers. En général, il y en a 1, 2 ou 3, c'est pas énorme. Et du coup, en croisière, on donne des commandes aux collègues et on dit on va servir les passagers, on va voir s'ils veulent quelque chose. Mais la plupart du temps, ils veulent rien d'ailleurs.
D'accord. Donc, ok, parce que c'est des vols plutôt courts. En
oui,
général.
C'est des vols ouais. plutôt courts où ils ont déjà mangé, où ils savent où c'est, donc ils peuvent se servir, etc.
D'accord. Et d'ailleurs, est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu une journée type pour toi en tant que pilote ?
Ouais, alors je me lève très tôt, aux alentours des 4h30 du matin. Je prends ma voiture, je roule jusqu'à La Roche-sur-Yon en général. Et là, donc, j'arrive une heure avant le décollage prévu. Et je prépare l'avion, etc. Je fais les performances, je nettoie la cabine, je fais en sorte d'accueillir le passager. En général, après, on se voit avec mon collègue, on discute du vol, on discute un petit peu de choses techniques. de la météo, beaucoup. La météo, vraiment, c'est ce qui dicte ma vie.
Donc c'est l'un de tes rôles aussi d'observer la météo.
Alors non, moi j'observe pas, je fais que de lire ce que les météorologues ont prévu, etc. Donc je vois les plafonds, je vois les vents, je vois les turbulences éventuelles, les choses qu'on pourrait rencontrer sur le parcours, des orages, etc. Mais sinon, et après, du coup, ben, on va accueillir le passager et on va être prêt pour le décollage. Le but du jeu, c'est que le passager n'ait pas à attendre une minute. D'accord. Vraiment qu'il monte dans l'avion, qu'il ait à peine le temps de s'attacher, qu'on soit déjà parti.
Donc il faut être prêt bien en avance.
Ouais.
Pour le client.
Exactement.
Est-ce que justement dans tes études, tu as eu des cours sur la météorologie?
Ah oui, ouais. Bien sûr. Ben, en fait, on passe ce qu'on appelle l'ATPL théorique. Donc c'est tout ce qui donc ça va de, c'est un peu comme le code de l'aviation. Donc il y a aussi bien des systèmes embarqués dans les avions que du droit aérien, que de la météorologie, que de la navigation. Donc ouais, on voit même de la navigation à l'ancienne, c'est-à-dire qu'on voit pas que avec le GPS, etc., mais plus aussi tout ce qui est quand on traverse l'Atlantique, etc. Parce qu'en fait, on est sur une boule. La Terre est une grosse boule et que comment faire pour se repérer sur un espace qui est courbe. Voilà, c'est un peu compliqué.
Et donc, si vous utilisez d'autres techniques que les nouvelles techniques, ça peut être quoi, par exemple, des cartes ou...
Alors, la plupart du temps, c'est avec des balises au sol. Mais bon, la plupart du temps, il y a quand même des GPS qui marchent très très bien. Mais on a aussi tout ce qui est avec les balises au sol, etc., qui est utilisé notamment même à l'aéroport de Nantes beaucoup, parce que les approches par GPS, elles sont de plus en plus perfectionnées, mais ça marche pas aussi bien quand même que quelque chose qui est avec des antennes au sol qui sont calibrées, etc.
D'accord. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'avoir des craintes avant un vol ou un vol un peu risqué avec une météo compliquée?
Alors, pas forcément des craintes parce qu'on ne prend pas de risques, justement. C'est-à-dire que tant qu'on est au sol, il n'y a pas de problème. Il y a une phrase qui est assez connue, que j'aime bien, qui dit « Le décollage est facultatif, mais l'atterrissage est obligatoire. » Donc, vaut mieux être au sol et regretter de ne pas être en l'air plutôt qu'être en l'air et regretter de ne pas être au sol. Donc, du coup, on évite de partir dans des conditions où on n'est pas tout à fait sûr ou si on n'a pas au moins une solution de repli.
Et même avant de commencer tes premiers vols, t'as jamais eu de crainte particulière par rapport au fait d'être dans les airs comme ça?
En fait, le truc qui est merveilleux, c'est que c'est vraiment accompagné. C'est vraiment comme d'apprendre à nager. Alors au début, on apprend à nager en ayant le maître nageur qui nous soutient et on a pied. Et petit à petit, le maître nageur ne sert plus à rien. Et donc, quand il nous lâche, d'ailleurs c'est comme ça que ça s'appelle un lâcher. On a juste à refaire ce qu'on avait l'habitude de faire et donc préparé. Du coup on prend confiance et après il n'y a pas de problème. Et même quand on débute dans une compagnie aérienne, il y a toujours une formation qui est accompagnée par un commandant de bord expérimenté qui lui va apprendre justement tout ça, donc qui est là aussi pour faire le rôle d'un instructeur, donc qui fait le même boulot quoi. C'est-à-dire qu'il va vraiment accompagner, voir, montrer, voir les erreurs, faire un débriefing. On fait un briefing et un débriefing après chaque vol en général. Donc du coup, ça permet de voir les choses qui sont mal passées ou qui sont bien passées.
Bon, c'est rassurant, vous êtes bien accompagné pour gérer toutes ces responsabilités aussi que vous avez toujours, en tant que pilote.
Toujours. C'est monnaie courante dans l'aviation, en fait, de jamais faire les choses par hasard. Il y a toujours une bonne raison.
Et tout à l'heure, tu disais qu'il n'y avait pas de steward ou d'hôtesse de l'air dans les petits vols, dans les petits avions.
Ça dépend. Ça sur les gros jets, ça peut arriver.
D'accord.
Mais sur les petits jets qui font une heure de vol en général, non.
Et quand c'est un petit jet, t'es tout seul
Non, j'ai aussi un copilote.
D'accord. Ouais. Vous n'êtes jamais seul à conduire, à piloter un avion?
Non, ça peut arriver, mais c'est rare. Et c'est dans des règles particulières.
D'accord.
Et c'est pas le plus préférable pour les passagers quand même, parce que avoir qu'une seule personne aux commandes, c'est quand même on sait jamais quoi. Ouais. Tout peut se passer. Enfin, on a tendance à très vite penser de manière risque. Donc du coup le risque que je sais pas moi ce que j'ai mangé ce midi, est-ce que ça va bien passer, est-ce que je vais être suffisamment apte pour éventuellement poser l'avion. Au moins quand il y a une autre personne, ça peut être beaucoup plus rassurant.
Mais c'est ça, surtout que vous restez des êtres humains avant tout. Donc tout est possible et le facteur humain. Infaillible, tout à fait. D'ailleurs, en parlant de se préparer à tout. Tu me disais que en sachant qu'il, enfin justement, il fallait se préparer à tout, en sachant qu'il y avait peu de chances que ça arrive. Comment tu fais pour gérer cette vigilance permanente et la fatigue, j'imagine, mentale que ça peut induire ?
Ah bah, tout simplement en regardant des documentaires. Moi, j'adore vraiment regarder les air crash, les choses comme ça, parce qu'il y a des documentaires qui existent, donc qui expliquent comment les crashs sont déroulés. Au-delà du fait que ça soit triste ou quoi que ce soit, c'est plus d'un point de vue technique et d'un point de vue pourquoi est-ce qu'ils ont fait cette erreur, comment ils se sont retrouvés dans cette situation, comment est-ce que j'aurais réagi à leur place. Et ça me donne du grain à moudre pour faire ce que j'appelle des what if en vol. Donc vraiment se dire, bah, tiens là, et si je perds un moteur, qu'est-ce
c'est
que je fais ?
C'est quoi des what if ?
C'est et si.
D'accord.
Et littéralement, et si je perds un moteur, qu'est-ce que je fais ? Et si il se passe ça, qu'est-ce qui se passe ? Et si. Et en fait, ça permet de se préparer comme ça et du coup de se rassurer aussi. Parce que de se dire, bah, ok, si jamais il m'arrive ça, bah, je ne suis pas surpris. Enfin. Malheureusement, justement, la surprise, c'est un gros sujet. Ça s'appelle le startle effect chez nous. Donc, c'est l'effet de surprise. Ça m'est arrivé une fois sur l'autoroute en voiture, où j'étais sur le périphérique lyonnais un matin et le moteur a décidé de s'éteindre. Donc, j'imagine que les auditeurs peuvent aisément se mettre à ma place, quoi, ouais. Se voir que, bah, en
tu
fait, qu'est-ce qu'on fait ? J'étais en voiture.
D'accord.
Ouais. Et donc, ce moment de flottement, de doute, en se disant, c'est pas possible, ça peut pas arriver, il dure une demi-seconde. Et en fait, il faut aller au-delà pour faire quelque chose, parce qu'on est en plein milieu de la route.
Pour
et
agir.
Il faut agir tout de suite. Bah, c'est un peu ça. Et en fait, du coup, c'est essayer de combattre ça le maximum pour éviter de friser complètement et d'être incapable de faire ce qu'on nous demande de faire.
Et ça, est-ce que tu as l'impression que tu l'as développé avec la formation ou de base c'était en toi, cette façon de fonctionner, d'imaginer tout ce qui peut se passer et d'anticiper ?
Je pense que c'est quand même plutôt avec la formation et avec l'expérience aussi.
D'accord.
Ouais.
Et est-ce que dans ta vie personnelle, tu as l'impression que tu agis aussi un petit peu parfois dans la même dynamique ?
Complètement.
Ouais.
Mais complètement. Ça, c'est vraiment, j'ai vraiment la manière de penser de cette manière-là avec le risque, avec les choses comme ça ou. Même pour un rendez-vous, même là, se dire bon bah on va prendre un quart d'heure de marge pour être tranquille, pour avoir de l'eau sous la quille, pour être.
Donc le métier influence aussi nos façons d'être dans le quotidien.
Complètement.
Le café des métiers, un ou une invitée, une foule d'expériences.
Alors Yann, on va parler un petit peu du pilotage automatique dans l'imaginaire collectif. Beaucoup de personnes se font plein d'images de ça,
oui.
Que l'avion se pilote tout seul, que le pilote n'a plus rien à faire. Est-ce que tu pourrais nous expliquer concrètement ce que c'est ?
Alors, le pilote automatique, c'est un mauvais mot. C'est-à-dire que c'est pas un pilote. C'est avant tout vraiment une machine qui va suivre des éléments. Mais c'est le pilote qui va donc contrôler, qui va dire bah, « tu fais ça ». Et il va le faire, mais il va le faire très bien. Le pilote est capable de le faire aussi, il n'y a pas de problème, sauf que c'est quelque chose qui est très redondant, qui est très difficile, qui demande beaucoup de concentration en fait pour pas grand chose. Et cette énergie là, en fait, on préfère la garder à justement si jamais il y a un problème. Et donc le pilote automatique est une aide, mais avant tout un outil. C'est pas quelque chose qu'il fait tout seul. Sinon, en fait, c'est pas possible. Il faut absolument que... j'ai une phrase que j'aime beaucoup, c'est tout faire, rien laisser faire. Donc on fait faire au pilote automatique ce qu'on veut qu'il fasse, mais en aucun cas on est là en train de se dire « Ah, oh bah il fait ça, ah bon, bah, j'aurais pas fait comme ça, mais ok, vas-y, on va le suivre. » Non, c'est toujours, on est là et on surveille qu'il fasse bien comme on veut. Il y a une phrase aussi qui est, je cite beaucoup de choses, hein, mais vraiment c'est rubbish in, rubbish out. Si tu lui dis de la merde, ben, il va te sortir de la merde,
ah
voilà,
ouais.
Tout simplement. Donc du coup, il faut vraiment faire attention à ce qu'on met et bien vérifier, parce que les automatismes, c'est quelque chose de complexe, surtout sur un avion de plus en plus complexe, etc. Donc il faut bien être sûr et être capable en fait, de savoir ce qu'il va faire, ce qu'il va parfois même l'anticiper. Sur mon précédent avion qui était un peu vieux, ben, je savais qu'il y avait des moments où là il va me faire un truc, ça va pas me plaire, je me prépare déjà à reprendre les commandes tout de suite.
Et vous pouvez le désactiver ?
À tout moment ?
Ouais.
Bien évidemment. Il se désactive tout seul d'ailleurs quand il sait plus faire.
D'accord.
Ah oui, dès qu'à un moment donné il y a quelque chose qu'il sait pas faire, il va se désactiver. Et là, bon.
Reprendre la main.
Un monde sans pilote, voilà, si on n'est pas concentré, bon, voilà.
Tout à fait. Et qu'est-ce que tu penses des voitures avec le pilotage automatique ?
Bah, c'est en fait, quelque part, c'est un gros problème pour moi, parce qu'en fait, c'est déjà dans l'aviation, alors qu'il y a le contrôle aérien où on ne fait pas n'importe quoi, où du coup, il n'y a personne qui peut se rabattre sur notre voie ou quoi que ce soit, comme il peut y avoir en voiture. Là, d'imaginer faire... Et que là, il y a le pilote automatique déjà dans l'aviation, et qu'en plus, il y a quand même des pilotes qui sont là pour surveiller ce qu'il fasse bien et lui indiquer quoi faire. Là, dire « Oh, bah, je laisse faire complètement la voiture sur la route, avec tout ce qui peut se passer, des vélos, etc., des piétons, des bus. » Alors, ça marche très très bien, certainement dans quelques quartiers des villes américaines faites par Tesla, mais sinon... j'imagine mal que à partir du moment où, enfin, on voit bien tous les bugs qu'il y a quoi sur les réseaux sociaux, on voit bien avec dès que la ligne est un peu effacée, le truc qui est perdu, et là, faut être prêt à reprendre les commandes aussi quoi.
Donc, ouais. Et de ton point de vue, bon, c'est une question de point de vue personnel, mais pour toi, est-ce que ça va trop vite un petit peu l'évolution à ce niveau-là du pilotage automatique en lien avec l'intelligence artificielle?
Bah, moi, je trouve quand même qu'il faut quand même garder le savoir-faire. Et en fait, c'est un peu bête ce que je vais dire, mais en réalité, c'est ce que j'applique beaucoup. C'est-à-dire, oui, l'automatisme peut beaucoup nous aider. On peut vraiment faire l'avion, le faire aller presque jusqu'au seuil de piste en pilote automatique. Mais c'est pas une bonne idée, parce que si un jour on a besoin, bah on a perdu le réflexe. Et c'est un peu comme en voiture, c'est-à-dire que ouais, elle se gare toute seule, elle fait ton créneau parfait, mais de temps en temps, une fois de temps en temps, fais-le sans les automatismes, fais-le toi tout seul pour voir. Alors là, il n'y a pas de vie en jeu, etc., mais même rien que pour garder la conscience du truc, la capacité à le faire.
Ok. Et un peu dans le même principe des idées reçues sur le pilotage automatique, est-ce qu'il y a d'autres fausses croyances, un petit peu, auxquelles tu fais face dans ton métier? Des questions qu'on peut te poser innocemment.
Dernièrement, il y a eu quelqu'un qui m'a alpagué sur les chemtrails.
Les
chemtrails, c'est une espèce de théorie du complot, enfin même pas une espèce, une théorie du complot qui dirait que... Les avions volent, et en fait les traînées blanches qu'on voit dans le ciel, c'est des produits chimiques qui retombent sur le sol et qui apportent des maladies ou je ne sais quoi.
D'accord.
Mais en réalité, ces personnes-là n'ont aucune conscience que l'avion, le gros problème, c'est le poids. Et s'amuser à faire, ou même à mettre des additifs dans le carburant, c'est vraiment une mauvaise idée. C'est en réalité rien d'autre que de la vapeur d'eau. C'est même pas des gaz d'échappement, c'est vraiment de la vapeur d'eau.
D'accord. Et bien maintenant, nous allons partir sur une petite pause musicale avec un morceau de Tommy James et The Shondells, avec le morceau Crystal Blue, pardon, Persuasion.
What do you see? The sun is rising, most definitely. A new day is coming. Ooh-ooh. People are changing. Ain't it beautiful? Ooh-ooh. Crystal blue. Better get ready. Gonna see the light. Love is the answer. Ooh, and that's all right. So don't you give up. Your mind.
toujours au Café des Métiers avec Yann. C'est toi qui as choisi cette musique, Yann. Qu'est-ce qu'elle t'inspire ?
Ah bah clairement, un vol, coucher de soleil. C'est-à-dire que c'est vraiment le côté plénitude, où là on est en train de... on se sent bercé complètement par les éléments. J'aime assez ce côté à la fois très relax et détendu de la croisière, où on est en haute altitude, tout va bien, tout est calme, il n'y a pas beaucoup de bruit, on voit loin, dehors, etc. Et en même temps, bah, on est juste à 1000 km/h dans un air à moins 56,5 à 10 km d'altitude. Donc c'est à la fois très violent et très doux, calme, etc. Donc ouais, c'est vraiment ce qui m'inspire, cette musique.
D'accord. Et vous pouvez écouter de la musique pendant un vol ?
Alors normalement non,
ouais,
mais, normalement. Mais c'est vrai que bah, y a quelques casques qui le font. Donc moi je le faisais notamment pendant ma formation, donc ça c'était pas mal, quoi. En gros, à un moment donné on doit faire des heures sur un petit avion. Donc du coup je me baladais un peu partout en France quand je pouvais. Donc bah, quand j'étais tranquille, coup de la portière avec cette musique, j'étais bien, on était pas mal. Pendant les grosses périodes de canicule aussi, bah, du coup, je me mettais un petit peu plus en altitude, donc il faisait 15 degrés, j'étais un peu plus tranquille, c'est comme si j'avais la clim, quoi.
Ça donnerait presque envie d'être en pleine canicule pour vivre ce moment. Il y a une valeur dont tu parles beaucoup, la valeur de résilience. Oui. Elle est importante pour toi, pourquoi ?
Alors, déjà, la résilience, donc c'est la capacité à surmonter un problème. Moi, je préfère me dire plutôt, c'est qu'est-ce qui vous reste quand il n'y a plus rien. Voilà. Donc, du coup, si vraiment on a, je sais pas moi, on a plus de moteur, plus d'essence, plus d'électricité dans l'avion, quelque chose qui vraiment, qu'est-ce qui nous reste quand on est complètement perdu, qu'est-ce qui nous reste. Et en fait, c'est les bases. Pour moi, c'est vraiment la capacité à revenir aux bases et à se dire, ok. Ben en fait un avion ça vole comme ça, il faut ça et c'est important que je maintienne ça, que je sois sûr que ça soit maintenu et après on verra le reste. Une règle qui est très connue par les aviateurs, hein, c'est d'abord aviate, donc contrôler l'avion, navigate, ensuite la navigation et ensuite communiquer. Communicate.
D'accord. Voilà.
C'est dans cet ordre là, c'est d'abord on contrôle l'avion, ensuite on voit où on va et ensuite on dit où on va.
Donc toi, tu associes la résilience à une forme d'adaptation, finalement,
oui,
à l'instant présent, à ce qui s'offre à toi.
Et à une base vraiment, quelque chose qui est important. La base de tout, le retour dans un petit avion, parce qu'on commence par ça, et en fait, c'est la base, et les fondations sont très importantes, et c'est pour ça qu'il faut les garder. On parlait d'automatisme tout à l'heure, justement, l'automatisme nous enlève un petit peu ça, des fois. Et donc, c'est bien de maintenir ça. De maintenir cette conscience que, ouais, en fait, ça beau être un avion très, très moderne, très technologique, avec des aides de partout, etc. Ça reste un avion, c'est pas plus bête qu'un tout petit avion qui n'a aucun équipement. Et donc, du coup, bah, ça vole de la même manière, tout simplement. Donc, il faut garder ça en tête et essayer de se raccrocher à ça quand il y a un problème.
C'est drôle parce que quand tu parles de la résilience et de tout ça, on pourrait faire un parallèle avec la vie, finalement. Parfois, c'est intéressant de revenir à l'essentiel, revenir aux bases, et de s'adapter à ce qui se passe, en fait.
Mais oui. Oui, quand il y a un problème, qu'est-ce qui se passe quand il n'y a plus rien ? Vraiment, c'est exactement ça, quoi. C'est qu'est-ce qui nous reste ? Et l'important, c'est qu'il reste des choses. Il faut qu'il reste quelque chose.
Maintenant, on va partir sur une question un peu délicate, Yann, sans rentrer dans un débat écologique. Je me demandais, comment peut-on se positionner en tant que pilote d'avion quand on arrive à un moment de l'histoire de la planète comme aujourd'hui, où on se rend compte que beaucoup de transports qui émettent du CO2, entre autres, impactent les ressources de la planète ? Comment tu te situes, toi, par rapport à tout ça ?
Alors, effectivement, c'est une question intéressante. Et en fait, moi, je vois plutôt les chiffres d'un point de vue global. Tout le CO2 rejeté mondialement, l'aviation, donc tout ce qui vole, tout ce qui est avion de ligne, tout ce qui est jet privé, tout ce qui est petits avions, etc., tout ce qui vole, même les hélicoptères, tout, ça représente entre 2,5 et 2,7% du CO2 rejeté mondialement par an. Donc quelque chose, c'est une question d'échelle, donc effectivement c'est quelque chose qui est déjà là, qui est déjà important, mais en fait c'est quand même quelque chose d'important. L'aviation, c'est... ça, en plus, ça tire toujours vers le haut, parce qu'on veut toujours faire en sorte que les avions consomment moins de carburant possible. Donc, les avionneurs comme Airbus tentent du mieux qu'ils peuvent pour faire en sorte que les avions consomment de moins de carburant. Et ça marche très bien. L'Airbus A350, par exemple, qui est un avion qui est très moderne, et qui marche très très bien et qui est d'une efficience folle. C'est jusqu'à 25% de moins de consommation de carburant comparé à un avion du même type.
D'accord. Et en comparaison avec d'autres moyens de transport, où se situent les avions ?
Bah, ça dépend. Mais en réalité, la plupart du temps, quand on prend un avion de ligne, on est en remplissage de au moins 80%. Et sur des avions récents, donc on est aux alentours des 3 litres au 100 par passager. Ce qui reste quand même convenable comparé à ma voiture qui fait aux alentours des 5.
Mmh. Et on parlait aussi tout à l'heure des bateaux.
Eh oui, des bateaux. Ah oui, tous les bateaux qui font les fuels lourds, etc. Moi, j'ai pu en voir, notamment sur le détroit de Gibraltar, où je voyais un bateau avec une fumée noire, mais noire, infernale. Mmh. Parce qu'en réalité, bah, c'est tout le carburant brûlé qu'ils veulent pas, qui est interdit, hein, mais qu'ils utilisent quand même, parce qu'ils s'en fichent et que ça se voit moins, en fait, que les avions. Donc c'est vrai, je comprends aussi que les avions, ça peut être quelque chose, mais en réalité, c'est pas tant un problème que ça.
Est-ce que tu sens que, oui, tu disais que les avions récents, modernes, consomment moins. Tu sens qu'il y a des choses mises en place, justement, quand même, pour aller dans ce sens-là.
Mais bien sûr, plus, complètement. Ouais. Il y a le SAF aussi, il y a un carburant nouveau qui est là pour... qui est construit à partir de je crois, d'huile ou choses comme ça. Enfin, vraiment, quelque chose qui est d'essayer de réutiliser au maximum. Et ça, c'est bon espoir. C'est-à-dire que si, en plus, on peut faire un avion qui consomme moins, et en plus, avec un carburant qui est moins impactant pour l'écologie, bah c'est quand même bien. Et on est très loin des années 70. Alors moi, je suis un méga fan du Concorde, hein, mais clairement, d'un point de vue écologique, c'était la folie furieuse. Cet avion, en arrivant à son attitude de croisière et sa vitesse de croisière, il consommait autant qu'un Boeing 747 qui pouvait transporter trois fois plus de passagers sur un aller-retour en New York. Lui, il a juste fait un décollage de Paris.
D'accord.
Voilà.
Effectivement.
Donc, c'était aussi pour ça qu'il n'a pas terminé sa carrière, le Concorde, à cause du crash qu'il y a eu en 2000, mais bien parce que, en fait, d'un point de vue écologique, ça ne marchait pas et que ce n'était pas viable pour les compagnies aériennes.
D'accord. En espérant que l'évolution continue en ce sens.
C'est une bonne situation, ça, Scrib.
Vous savez, dans notre métier, il vaut mieux passer pour un fou que pour un imbécile.
Et ben alors là, vous risquez pas la camisole, vous.
Nous sommes toujours au Café des Métiers avec notre invité Yann. Est-ce qu'il y a une chose, Yann, que tu aurais aimé savoir avant de débuter ta carrière en tant que pilote ?
C'est pas toujours ce qu'on imagine. Il y a beaucoup d'attentes, en fait. Parfois, c'est vraiment attendre. Après, moi, c'est vrai que je suis dans l'aviation d'affaires, donc forcément, on se prépare. Mmh. On se prépare en avance parce que le passager peut avoir une heure d'avance comme deux heures de retard. Et dans tous les cas, il faut qu'il attende le moins possible, donc c'est à nous d'attendre. Mais après, c'est vrai qu'il peut y avoir aussi beaucoup d'attentes, et donc, ouais. Mais c'est pas, non, c'est
donc
quelque chose que j'attendais.
Donc se préparer à être patient.
Ouais, ou s'occuper autrement, prendre un livre, choses comme ça.
D'accord. Si tu te projettes un petit peu dans les 5 ans à venir, quel aspect de ta vie professionnelle tu aimerais maintenir ? Ou à l'inverse, est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais ajouter ou supprimer ?
Faire de la ligne. Voilà.
D'accord.
Pilote d'avion de ligne, voilà.
C'est clairement, un projet.
Ça sera un projet. Toucher à des plus grosses machines, etc. Donc ça pourrait être sympa. Éventuellement faire du long courrier. Donc ça pourrait être vraiment quelque chose d'intéressant aussi. Parce qu'il y a d'autres aspects dans le long courrier, notamment quand on passe au-dessus des océans, etc. Donc là, il y a d'autres choses. Parce que forcément, on se retrouve encore plus tout seul que quand on est au-dessus de l'Europe. Bon, on a un problème au cas où. On saute sur le premier aéroport et terminé. Mais quand on est au milieu de l'Atlantique, là, ça commence à être plus compliqué. Donc, il y a d'autres questions qui se posent, donc d'autres procédures. Donc, ça peut être très intéressant aussi.
D'accord. Et ce sont aussi de nouvelles formations donc, à faire apprendre toujours plus.
En fait, on passe notre vie à apprendre. C'est ça qui est merveilleux, c'est qu'en fait, on passe toujours notre vie à apprendre des autres, à apprendre des erreurs, à apprendre des crashs qu'il y a eu, à apprendre de tout ça. Et en fait, il faut garder cette culture d'apprentissage, cette soif de toujours comprendre plus loin, d'essayer même dans son propre avion, même si on a... Des milliers d'heures dessus, d'essayer de se dire ah bah tiens, mais pourquoi est-ce qu'il y a ça au fait, comment ça peut marcher, où est-ce que c'est, etc. Et en fait, toujours essayer de comprendre au maximum pour avoir tous les éléments, parce que ça pourra toujours nous servir.
Et c'est une très belle conclusion. Nous allons finir sur ça, toujours apprendre. Merci à toi, Yann, pour ton partage.
Avec plaisir. Merci
à vous. On te souhaite plein de belles choses pour la suite.
Merci.
Quant à nous, chers auditeurs, auditrices, on se retrouve mercredi prochain à 13h30 sur Prune pour le rendez-vous du Café des Métiers. Et tous les jours en podcast sur prune.net, je vous souhaite une belle après-midi. Travaillez bien, aimez ce que vous faites, faites ce que vous aimez et surtout prenez soin de vous.